J'ai envie de commencer par deux choses un petit peu d'actualité par rapport au sujet de ce soir. La plus récente, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, c'était dans Le Monde il y a quelques jours, la semaine dernière plus exactement, où il y avait un article qui touchait, enfin qui racontait un peu certaines choses qui s'étaient dites à un colloque de sociologie à Rouen qui portait sur la question un peu de vieillissement de la population, des seniors, etc. Donc il y avait un article dans Le Monde qui rendait compte de ce colloque, et sur le bord de cet article, comme ça arrive parfois, vous avez un petit encadré qui s'appelle repère, donc qui est censé être un encadré qui donne des repères, c'est-à-dire des informations objectives, etc. Première partie de cet encadré sur des questions, on va en parler parce qu'on parle souvent surtout de cet aspect-là, sur des questions de démographie, combien y aurait-il ou combien y a-t-il de seniors ou de personnes âgées ou de vieux, on parlera peut-être des mots aussi tout à l'heure en France. Et puis, seconde partie de l'encadré, là, texto, on apprend que, ouvrez les guillemets, pour éviter la surreprésentation électorale des seniors, un chercheur suisse a proposé de pondérer les votes en fonction de l'âge. Il a fait plus que le proposer un soir de bistrot. Il a établi tout un système extrêmement précis, avec justement un calcul de la pondération. Donc chaque année, alors 18 ans, un vote égale 1, et puis chaque année, un petit pourcentage donc est retiré de ce vote. Alors. Et ce qui est quand même important là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait que cette information n'était absolument pas présentée. Déjà, on ne savait rien. On ne savait pas si ce monsieur est un hurluberlu, ce qu'il a publié, s'il est reconnu par la communauté scientifique, etc. C'était donné comme étant, c'était légitimé, comme étant quelque chose, qu'il existe une surreprésentation, que c'est un problème et qu'il faut résoudre ce problème par ce type de mesure. Ce qui est intéressant de voir aussi, on en reparlera peut-être au fur et à mesure de la soirée, c'est comment quelque chose comme ça, ça a provoqué, il y a eu quelques réactions, mais relativement peu, à mon avis en tout cas, par rapport à imaginer la même chose écrite pour en gros n'importe quelle autre catégorie qu'on pourrait trouver de la population. Donc ça, je pense qu'on s'y interrogera ce soir, sous d'autres formes aussi, enfin par rapport à d'autres éléments aussi, en particulier aux clichés ou aux stéréotypes dont on va parler. Est-ce que l'agisme, ce racisme anti-vieux en quelque sorte, n'est pas d'une certaine manière la forme de racisme la plus banale aujourd'hui, la plus socialement acceptée. Je pense que c'est intéressant qu'on s'interroge là-dessus ce soir. Et puis autre chose, justement, dans le même ordre d'idée, qui a provoqué des réactions, mais pas tant que ça. Je ne sais pas si vous aviez entendu un jour, c'était là il y a quelques mois, un peu avant l'été, où c'était Valérie Pécresse, qui doit être la ministre de l'Enseignement et de la Recherche, qui interrogeait un soir au journal télévisé, parlait de différentes choses et a dit à un moment, il nous faut lutter contre un certain nombre de choses et notamment contre le fléau du vieillissement de la population. Voilà. Alors. Bon, en gros, la question, je crois que c'est ça qui serait intéressant qu'on regarde ensemble, c'est comment on en est arrivé là, quoi. C'est-à-dire comment on en arrive à un moment dans une société comme la nôtre à ce qu'un journal comme Le Monde, à pouvoir balancer des énormités pareilles. Et à pouvoir, je vous dis, avec cette insouciance, peut-être un dernier exemple dans l'actualité aussi, vous vous souvenez sans doute, c'était juste avant ou au début de l'été, l'affaire avec Ciné. Le dessinateur de Charlie Hebdo, etc. Bon, il y a eu, certains d'entre vous l'ont peut-être lu, un texte de Bernard-Henri Lévy, publié là aussi dans Le Monde, où Bernard-Henri Lévy, notamment, revenait dans ce texte sur, en effet, l'antisémitisme, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà un texte où précisément il parlait des stéréotypes, il parlait de tout ce qui touche justement au racisme ou à l'antisémitisme, et à un moment de ce texte, il utilisait l'expression, il parlait de Ciné en disant « Et voilà un vieil humoriste, ouvrez la parenthèse, qui donc probablement ne sait plus vraiment ce qu'il dit. » Ciné, 79 ans. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire même quelqu'un, après on pense qu'on veut de BHL, et enfin bon, peu importe, mais même quelqu'un dont a priori quand même c'est... un de ses, on va dire, réflexes intellectuels pratiquement, c'est d'être attentif à ça. Aux clichés, aux stéréotypes, à tous ces éléments qu'on retrouve en effet dans le racisme, dans l'antisémitisme. Et voilà comment, dans un article là-dessus en plus, il peut mettre complètement les pieds dans cette espèce de plat agiste et discriminer, enfin, plutôt complètement annuler ce que peut dire une personne uniquement à cause de son âge. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est pour vous dire, mais de toute façon, vous le savez, hein, on a dans l'actualité quasiment régulièrement, quasiment en permanence, des éléments justement qui nous interrogent sur ça, sur la vision qu'on a aujourd'hui, la vision qu'on nous donne en tout cas aujourd'hui, dans certains médias en tout cas, de la vieillesse, du vieillissement, etc. Alors peut-être faire un petit parcours hein, sur ces différents types de, sur les différents domaines où on va retrouver ça. Je crois qu'il faut quand même si ce n'est pas ma tasse de thé, commencer par parler un tout petit peu des questions de démographie. Hein. Je crois que c'est important, d'une part, parce que c'est souvent, vous l'avez remarqué, le discours, je dirais presque dominant dans certains médias. Quand on parle vieillissement de la population ou vieillesse, etc., c'est tout de suite sous des formes très quantitatives. Combien il y en a, combien il va y en avoir, comme si, et souvent, oui, souvent très alarmiste, hein, bien entendu, par rapport à ça. L'autre élément, je crois, qui est intéressant à souligner, c'est plus lié à l'histoire, plus historique, la manière dont les démographes français, notamment les démographes de l'entre-deux-guerres et les démographes des années 50-60, ont perçu, ont décrit le vieillissement de la population, ça a été assez unique en Europe. C'est-à-dire on a été le pays où vraiment la démographie française officielle, hein, notamment Alfred Sauvy qui était son chantre, a eu la vision la plus négative, noire, pessimiste du vieillissement de la population. Hein. Et c'est important toujours ça, voilà, de se pencher un peu sur l'origine aussi des choses. Une grande partie de ces formes un peu d'agisme qu'on trouve aujourd'hui dans le discours démographique nous viennent, ça fait en gros presque 100 ans maintenant qu'elles sont là. Et entre autres, alors on pourrait établir beaucoup de raisons, juste peut-être une d'entre elles qui est intéressante, c'est qu'au début, ce vieillissement de la population a servi en fait la démographie, enfin la démographie majoritaire française à l'époque était nataliste et obsédé par les questions de natalité, notamment avec tout un tas de discours qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui quand on n'est plus dans le contexte, mais tout un tas de discours qui étaient en gros les Allemands, notamment les Allemands, font des enfants, donc ça va être des soldats et des ouvriers. Nous, si on ne fait pas autant d'enfants qu'eux, voire plus, on va se faire écrabouiller à la prochaine. Hein. Oui, il faut se replacer aussi par rapport, on était là-dedans. Et en fait, le vieillissement de la population a été utilisé au départ comme outil, en quelque sorte, de propagande nataliste. Voilà, faites des enfants, parce que sinon, on va avoir un pays de vieux, et un pays de vieux, on va se faire écrabouiller par tout le monde. Hein. Et du coup, on va y revenir, mais ça a été vraiment l'origine hein, d'un certain nombre, justement, de stéréotypes, de clichés par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, cette vision démographique, on la trouve en effet très souvent. Alors, il y a un chercheur canadien qui s'est amusé à un moment, qui avait fait une recherche. Il avait récupéré un petit peu dans la presse, dans les médias, toutes les expressions qu'il avait trouvées sur ce fameux vieillissement démographique. C'est ahurissant. Ça va de la marée grise au tsunami démographique, à l'armageddon gériatrique. C'est-à-dire que on est dans quelque chose, mais on va y venir, c'est intéressant, on est dans quelque chose qui est l'ordre de l'irrationnel, hein, qui est vraiment l'ordre de la phobie. Quoi, hein. On a quelque chose qui est pratiquement présenté souvent comme une invasion de vieux, hein, qui va déferler sur le pays ou sur nos pays. Hein. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est plusieurs choses. C'est... Je vais essayer d'être un peu synthétique parce que je n'ai pas non plus... la première chose peut-être qui est intéressante, c'est de voir qu'on oublie très souvent, et je crois qu'il faut en fait, ce que tout ça doit nous apprendre, c'est avoir une sorte de vigilance aussi, un peu de distance critique par rapport à ce qu'on entend ou ce qu'on lit. Très souvent, quand on nous parle de démographie, vous le remarquerez, sur la question des personnes âgées, l'âge, les pourcentages qui sont donnés. Vous savez, on nous en parle en nous disant, voilà, en France, en 1950, il y a X% de personnes de plus, mettons, de 60 ans. Et dans la France de 2050, il y en aura X%. Donc, voilà, invasion, marée grise, etc. Le seul problème, vous le remarquerez, c'est que très souvent, dans, on va dire, 90% des situations, l'âge qui est pris pour ces pourcentages est le même quand on nous parle de 1950 et quand on nous parle de 2050. Et c'est censé nous parler des personnes âgées. Vous voyez tout de suite le problème. Parce que si dans la France de 1950, il y a 8%, Alors le chiffre exact, c'est ça qui est intéressant, on va les donner. Dans la France de 1950, vous avez 12% de personnes de plus de 65 ans. Mettons, pour faire des grandes généralités, que dans la France de 1950, au-delà de 65 ans, on est entre guillemets une personne âgée. 12%. Que nous disent les chiffres sur 2030 ? 2030 en France, 12% de personnes de plus de 75 ans. Mettons que dans la France de 2030, et je suis très pessimiste, les personnes âgées, c'est les personnes de plus de 75 ans, parce que vous avez déjà aujourd'hui, il y a plein de gens de 75 ans qui ne se sentent pas et qui ne sont pas vieilles de tout un tas de points de vue. Donc ça veut dire que si on prend ces âges, c'est-à-dire que si on tient compte dans les chiffres qu'on donne de l'évolution que vous avez tous remarqué comme moi et que les chercheurs ont maintenant un peu plus étudié du fait qu'au fur et à mesure du XXe siècle, en quelque sorte, on devient vieux de plus en plus tard, c'est-à-dire que l'âge de la vieillesse s'est décalé au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que si on arrête de se fixer sur ses 60 ans ou ses 65 ans et qu'on s'interroge sur en gros quel pourcentage dans la population française de personnes âgées, et voilà, il y a à peu près le même pourcentage de personnes âgées dans la France de 1950 et dans celle de 2030. Donc, il n'y a pas d'invasion. Non, mais, vous voyez, déjà, c'est les chiffres, il faut être très, très, très prudent, justement, avec cette manière dont on utilise ces âges, ces pourcentages, ces chiffres, etc. Quand on regarde, restons quand même sur ces 60 ou 65 ans pour là aussi voir quelque chose d'intéressant par rapport à ces questions de démographie. Même si ça n'a quasiment plus rien à voir, 60 ou 65 ans, avec la vieillesse. Si vous regardez là aussi la France de 2050, en très gros, démographiquement, c'est une France où vous avez à peu près un tiers de la population qui a moins de 30 ans, un tiers de la population qui a entre 30 et 60 ans, et un tiers de la population qui a entre 60 ans et 120. 120 et quelques, si on a une jeune calmant dans la France de 2030. Où est le problème ? Ça ne pose un problème que dans une vision qui, pour des raisons économiques ou des raisons idéologiques, se donne pour modèle, d'une certaine manière, l'homme productif, rapide, rentable, qui a entre 30 et 50. Si on juge de ça, par rapport à tout un tas d'autres critères, le fait dans une société d'avoir un tiers de moins de 30 ans, un tiers de 30-60, un tiers de 60-120, où est le problème ? Là aussi, c'est quand même, il faut quand même le rappeler, la manière dont on juge de ces questions de démographie, dont on dit à un moment ça c'est un problème, il faut être clair de quoi on parle. C'est peut-être un problème si ce qu'on a derrière en tête, et on va en parler, c'est des questions de financement, par exemple, de certaines choses. C'est peut-être un problème, mais encore faut-il, le dire clairement, en soi, qu'on ait ce qui va arriver dans l'avenir, c'est-à-dire une pyramide des âges, ou si on parle encore de pyramide, on aura l'air un peu con parce qu'elle ressemblera plus du tout à une pyramide des âges, ça ressemblera de plus en plus à quelque chose d'assez, il y aura à peu près, sauf en effet aux très grands âges, il y aura à peu près le même, elle sera relativement linéaire, la pyramide des âges, relativement en forme justement, c'est-à-dire que chaque petite tranche d'âge, vous avez souvent cette 5 ans, 5 ans ou 10 ans, 10 ans, sera à peu près équilibrée. Voilà. En soi, ça, dans une population, c'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de gens de tous les âges, c'est pas un problème. Ça n'est un problème, là aussi, que si on juge de ça avec certains critères, qui sont des critères notamment économiques. Je crois que c'est important de le rappeler. Et une dernière chose à rappeler aussi, parce que derrière cette vision, et ça, c'est vraiment, je crois que les démographes par rapport à ça, en effet, quand on nous présente parfois cette modification de la pyramide des âges, ce vieillissement de la population comme représentant avant tout justement un problème ou une catastrophe, etc., on oublie quand même de rappeler ce que ça voulait dire autrefois, la pyramide de la France très pyramidale, ou ce que ça veut dire. Si vous voulez une belle pyramide pour un beau démographe bien pyramidal, vous prenez la pyramide des âges du Burkina Faso. On est orphelin vers 20 ans et la plupart des gens meurent avant 40. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? J'en suis pas tout à fait sûr. Non mais c'est quand même là aussi, mais il faut le rappeler parfois, tellement on a ces discours qui sont négatifs, ce vieillissement de la population, cette évolution de la pyramide des âges, etc., ce que ça montre en premier lieu, c'est que la majorité d'entre nous ne mourront plus jeunes, ce qui était le cas autrefois. Il y a encore 150 ans dans ce pays. la majorité d'entre nous, on mourait jeunes. Enfin, nous, de nos ancêtres. Voilà. Hein. Mais là aussi, on est obligé, on va y revenir sur plusieurs types de discours. Pareil, quand on parle de l'argent qui est utilisé pour la santé ou pour le prendre soin, etc., on a l'impression tout de suite, on oublie. Hein, de rappeler aussi, hein, tellement on est souvent sur le versant justement catastrophiste ou alarmiste des choses, ce que ça représente en termes justement de changements positifs, de progrès, etc. Hein. Donc je crois que sur cet aspect démographique, déjà, il faut être un peu prudent, en effet, dans la manière dont on regarde les chiffres et il faut être un petit peu vigilant, hein, sur... Voilà, bon. Je vais arrêter là sur l'aspect démographique. Alors, l'aspect démographique, il a été accompagné, et ça, on va le retrouver aussi aujourd'hui, c'est peut-être un des aspects, justement, les plus dangereux. Quand vous regardez, alors là, il y a beaucoup de citations, enfin, beaucoup de grandes phrases d'Alfred Sauvy là-dessus, justement. Quand vous regardez la manière dont était dépeint ce vieillissement de la population, à cette augmentation démographique du nombre de personnes de plus de tel ou tel âge, était associée, hein, dans ces discours-là, forcément, je l'évoquais il y a quelques minutes, un déclin du pays. Déclin en termes moral, voilà. Déclin, alors tout le discours sur le progrès, c'est-à-dire, vous avez une phrase d'Alfred Sauvy, une de ses plus belles, disant, voilà, un pays qui vieillit, c'est un pays qui ne peut plus s'adapter à la marche du monde. Voilà. Hein. Le fait que le siècle de tous les progrès, en tout cas scientifiques, corresponde aussi au siècle du vieillissement de la population, le fait qu'un pays comme le Japon, qui est le pays le plus vieux du monde, l'ait été en même temps que c'était probablement le pays le plus technologique du monde, voilà, peu importe. Tout ça était, il y a eu un discours, hein, bourré justement de clichés, de stéréotypes, etc., sur l'équivalence pays vieillissant égale pays qui se détériore, pays qui décline, etc. Souvent, c'était sur un modèle, c'est intéressant de voir aussi l'origine un peu des stéréotypes, c'était sur un modèle, comment on pourrait appeler ça, je dirais organiste ou organiciste, c'est-à-dire que quand on vieillit, le corps ou certaines des facultés corporelles décroissent, donc un pays qui vieillit, c'est un pays qui décroît. Hein, il y avait ce côté et on retrouve beaucoup, hein, dans la littérature démographique cette comparaison entre le corps et le pays. Hein, voilà. Comparaison en plus, c'est toujours ça, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ce soir, mais on a encore parfois ces visions très négatives globalement du vieillissement quand on ne s'intéresse qu'à celles de nos facultés qui, quand on vieillit, déclinent. Parce qu'on a des facultés qui déclinent quand on vieillit, et on en a d'autres qui ne vieillissent pas. Si on a une vision du vieillissement qui est centrée sur précisément les facultés qui déclinent, la rapidité ou la force musculaire ou machin, on va très facilement, à ce moment-là, avoir une vision très négative, en effet, du vieillissement. Hein ? Ce qui n'est pas le cas si on prend tout un tas d'autres choses, depuis la capacité à créer jusqu'à la capacité à ressentir des émotions, à être en relation avec les autres, à infiniment de choses aussi. Hein, voilà. Mais c'est des choses importantes de voir cette espèce d'ancrage comme ça de ces stéréotypes sur, voilà, sur le modèle du corps qui s'affaiblit ou qui décline. Avec ça, vous avez eu quelque chose qu'on va retrouver là aussi, qu'on a dans l'agisme, comme on l'a dans toutes les formes de racisme ou de sexisme ou d'autres choses. C'est le fait d'avoir cette... comment dire ça, d'utiliser l'âge ou d'utiliser le fait qu'une personne est vieille, hein, comme étant un élément à partir duquel on va pouvoir accrocher un certain nombre, là aussi, de caractéristiques, notamment psychiques ou psychologiques. C'est-à-dire qu'à partir de, sous prétexte qu'une personne est vieille, elle va être forcément, c'est quand même un peu mieux, elle va être forcément, quand on lit là aussi à l'origine de ces textes-là, alors là vous avez tout le champ, conservatrice, réactionnaire, là aussi elle ne va pas s'adapter, il y a radin, ça, la radinerie, vous la retrouvez. C'est-à-dire qu'on a tout un stock comme ça, hein, de clichés, de stéréotypes, d'idées reçues qu'on retrouve, hein, à peu près, comme on les retrouve, hein, c'est toujours à peu près les mêmes, comme c'est toujours à peu près les mêmes pour les étrangers ou pour les femmes ou pour les... voilà, selon le type de discours qu'on observe. Hein. le phénomène, indépendamment de chacun de ces clichés, parce qu'on ne va peut-être pas rentrer en détail sur chacun d'entre eux, le phénomène qui marque justement à la fois l'agisme et le stéréotype, c'est précisément le phénomène de, je dirais, de nombre. Enfin, de nombre. C'est pas, je ne sais pas quel mot. C'est le fait qu'en quelque sorte, l'âge suffit. C'est-à-dire que l'âge devient, résume tout, devient l'identité en quelque sorte. Ça peut, voilà. Quel âge il a? Il a tel âge, sous-entendu à partir de là, il est ceci, il est cela. C'est-à-dire que la personne est réduite à son âge, et à cet âge sont associées certaines caractéristiques, etc., dont on ne peut plus échapper. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver insidieusement aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup de discours qui vont depuis... C'est ces discours, en fait, uniformisants. Quand vous regardez même des discours, vous avez aujourd'hui, régulièrement, on voit passer, par exemple, des discours un peu d'opposition entre générations qui vont pratiquement, souvent d'ailleurs, clairement, accuser en quelque sorte les vieux ou les personnes âgées de vivre aux dépens des jeunes. Voilà. Ça, c'est un discours qu'on voit sous des formes plus ou moins X ou Y de temps en temps. Sous-entendu, tout d'un coup, socialement, économiquement, l'ensemble des vieux en France, donc c'est bien qu'on l'apprenne, tous les vieux en France sont riches. C'est-à-dire que, visiblement, à 60 ans, ou à 70 ans, ou à 80 ans, je ne sais pas ce qui se passe, qui fait ce virement merveilleux, mais on devient riche. Et en revanche, quand on est jeune, même si on est le fils du président de la République ou d'un fabricant d'avions, on est pauvre. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une négation de tout un tas de choses, de la réalité sociale du pays, tout d'un coup, avec cette espèce de discours sur les âges, qui uniformise complètement soit tous les retraités ceci, soit tous les jeunes cela, soit tous les vieux ceci, soit tous les jeunes cela. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dangereux à plusieurs niveaux, en effet. Dangereux parce qu'il crée des oppositions entre générations. Il crée des conflits possibles. Et dangereux aussi parce que c'est en effet un discours complètement de travestissement de la réalité. À chaque génération, à chaque âge, on retrouve toute une diversité de situations, des plus riches aux plus pauvres, en passant par tout un tas de situations intermédiaires. Voilà. L'âge, et ça, c'est, je crois que c'est important peut-être de le souligner dès maintenant, fondamentalement, quand on regarde l'ensemble, il n'y a pas une seule étude qui a pu démontrer que, comment dire, que l'âge dit autre chose que l'âge. Le point commun, le seul point commun qu'on peut établir avec certitude entre deux personnes de 80 ans, c'est qu'elles ont 80 ans. Voilà. Si à partir de là, sous prétexte qu'elles ont toutes les deux, ou 20 ans, peu importe, là je comprends, mais si à partir du moment où deux personnes ont le même âge, on en tire d'autres conclusions que le fait qu'on a le même âge, on avance sur un terrain risqué. Mais on a, ces discours-là sont des discours justement qui uniformisent complètement. Et vous allez le retrouver aussi sur des « qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ?» Vous vous souvenez peut-être après l'élection présidentielle de l'an dernier. En gros, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne l'ont pas vu, en gros, c'était Sarkozy, candidat des vieux. Si Sarkozy a été élu, c'est parce que les vieux ont voté pour Sarkozy. On a eu, clairement, on l'a lu, il a été beaucoup sur Internet, parce que, bon, pour tout un tas de raisons. Alors, est-ce vrai, justement? C'est intéressant, ce discours. C'est intéressant parce que, statistiquement, ce qui est vrai... Mais peu importe d'ailleurs les détails des pourcentages. Statistiquement, ce qui est vrai, c'est qu'on a en gros à peu près 2/3 des plus de 60 ans, donc environ autour de 60-63% des plus de 60 ans, qui ont voté Sarkozy. Ce qui veut dire que très facilement, on a fait de ces 60-63% une majorité, ce qui se discute. Ce qui est intéressant aussi, c'est... Enfin, une majorité... Vous voyez ce que je veux dire? Majorité absolue, en quelque sorte. C'était, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce discours-là, si on regarde, si on s'amuse à regarder aussi sociologiquement les votes qu'il y a eu lors de l'élection présidentielle, vous avez d'autres catégories, entre guillemets, de la population qui, à plus de 50%, ont voté pour Nicolas Sarkozy. Et on n'a pas accusé, en quelque sorte, Sarkozy d'être le candidat, je ne sais pas moi, des agriculteurs, si les agriculteurs ont voté, je crois, à plus de 50% pour Nicolas Sarkozy, ou le candidat des ceci ou cela. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait pour les vieux, hein? On l'a fait pour les vieux parce que fondamentalement, derrière, il y a tous ces clichés, notamment là, qui touchent à la politique, sur le fait que culturellement, là aussi, on a des stéréotypes très clairs qui font que les vieux seraient politiquement plutôt conservateurs, plutôt réactionnaires. Voilà. Alors, si précisément j'ai pas trop tort dans ce que je vous dis, c'est-à-dire si précisément j'ai pas trop tort quand je vous dis que l'agisme est quelque chose de profondément banal dans notre société, quand je vous dis que les vieux sont conservateurs, vous devez en effet me répondre, ben oui. Tout va bien. Alors, est-ce que je vais quand même donc du coup rentrer un tout petit peu en détail là-dessus. Il y a eu quelques études là-dessus qui sont intéressantes. Parce que ce qu'elles ont montré, sans aller trop dans les détails, ce qu'elles ont montré, c'est qu'on a un gros changement quand on observe l'évolution des votes dans la population française ces 50 dernières années en fonction des âges. Ce qu'on observe, vous l'avez peut-être remarqué aussi, ne serait-ce que sur vous, c'est qu'on a souvent le changement principal qui intervient, c'est en général entre 25 et 40 ans. C'est-à-dire que là, on a un passage très très net, hein, quand on regarde toutes ces études, d'un vote qui est plutôt un vote, comme on dit, des extrêmes autour de 20, 25, 30 ans, et les gens repartent un petit peu vers le centre, vers les partis, voilà, les deux grands partis classiques, aux alentours de 30, 35, 40. En revanche, on n'observe aucunement à 60 ans ou à 70 ans des gens qui votaient à gauche qui se mettent à voter à droite ou des gens qui se mettent à voter cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout d'un coup, c'est pas parce qu'on a 60 ans ou parce qu'on est retraité ou parce qu'on devient entre guillemets vieux que si ça fait 30 ans qu'on votait RPR, on se met à voter Front National ou si ça faisait 30 ans qu'on votait socialiste, on se met à voter UMP. Voilà. Ça, on ne l'observe pas. Voilà. Mais facilement, on a ce stéréotype de politiquement, il y aurait un effet, la vieillesse, vers le conservatisme ou des choses comme ça. Voilà, je crois que c'est intéressant là aussi. D'où ça vient, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui complique aussi les choses, c'est que vous l'avez remarqué, parfois ça donne des choses rigolotes. C'est-à-dire que comme ce thème du conservatisme est aujourd'hui utilisé aussi un peu pour tout. C'est-à-dire qu'il suffit, par exemple, qu'une réforme présentée comme représentant un progrès ne passe pas, pour qu'immédiatement, vous avez peut-être remarqué dans les journaux, ceux à cause de qui, en quelque sorte, elle n'est pas passée, sont forcément conservateurs. Hein? C'est-à-dire que ce mot de conservateur est aujourd'hui beaucoup employé, avec tout, très négativement, bien entendu, avec tout un tas d'autres choses qui tournent autour, pour accuser, là aussi, certaines parties de la population, de ne pas vouloir certaines choses ou de ne pas. Alors, ça donne parfois des choses rigolotes. Je prends un dernier exemple là-dessus. Ce qui s'est passé, indépendamment de ce qu'on en pense sur le fond, ce qui s'est passé avec le référendum sur l'Europe, il y a quelques années. Ça a été très drôle à observer. Vous avez eu le référendum, donc le non l'a emporté. Et le lendemain, la quasi-totalité des éditoriaux des journaux de France parler, en gros, le non à l'Europe, c'est parce que la France était conservatrice, elle refusait le progrès, et en gros, elle refusait le progrès, elle était conservatrice à cause du vieillissement de la population. Voilà. Alors, ça a été rigolo, pourquoi ? Parce que dans les jours qu'on suivit, il y a eu les éléments réels sur les votes, les sondages sortis d'urne, les dépouillements précis, etc., de ces sondages, etc. Et en gros, vous le savez, quand on regarde ce vote sur le référendum de l'Union européenne par rapport aux âges, là aussi, la majorité relative, mais la majorité autour entre 60 et 70% des personnes de plus de 60 ans ont voté oui à ce référendum. Voilà. Mais facilement, Hein. Alors, je pourrais vous en citer d'autres, des exemples. À Paris, c'était rigolo. Il y a quelques, quand il y avait eu la candidature de Paris pour... Paris n'aurait pas été choisi pour les Jeux Olympiques, je ne sais plus quand, parce qu'il y avait trop de vues à Paris. Hein. Donc, ça n'en faisait pas une ville dynamique, olympique, tout ça. Voilà. Bon. On va très souvent le retrouver, ça. C'est-à-dire que c'est facilement utilisé, hein, ce vieillissement de la population associé à ces notions de conservatisme, etc., c'est facilement utilisé avec une visée clairement idéologique, dans tout un tas de discours qui prennent ce vieillissement-là comme une sorte de bouc émissaire ou de cause explicative d'un certain nombre de choses politiques ou, surtout politiques. Voilà. Par rapport peut-être aux aspects, un dernier point, par rapport aux aspects politiques, parce que c'est souvent quelque chose qui, là aussi, qui nourrit en quelque sorte l'âgisme, c'est la question toujours de l'âge, notamment des sénateurs et des députés. Alors, ça c'est toujours un élément important, là aussi, qui sert, alors, qui fait que pas mal de gens parle clairement d'une sorte de gérontocratie dans laquelle on serait. Alors là, c'est intéressant sur plusieurs aspects. C'est intéressant parce que ça révèle là aussi à quel point l'âge peut facilement masquer d'autres choses. Hein, et peut être facilement une solution, je pense, alors c'est pas l'Assemblée nationale, mais je pense aussi à cette histoire, vous vous souvenez peut-être l'an dernier, si vous aviez vu ça passer, lors de l'élection du prix Goncourt l'an dernier, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que les jurys du prix Goncourt ont été totalement, quasiment incapables de d'élire le bouquin. La moitié des membres du jury n'avaient pas lu le livre. Enfin bon, ils se battaient entre eux. Enfin, ils n'étaient pas aux réunions. Enfin, voilà. Ça a été extrêmement, extrêmement laborieux pour arriver à élire le prix Goncourt. Et du coup, les membres et la présidente de l'Académie Goncourt ont réfléchi après ça et ont décidé que pour régler le problème et mettre fin à tous ces dysfonctionnements, ils allaient limiter à 80 ans l'âge auquel on peut être membre du jury. Voilà. C'est... Alors... c'est fascinant dans la mesure où là aussi, on ne va pas, ce n'est pas le sujet de ce soir, s'attarder sur toutes les choses qui font que les membres de ce jury étaient plus ou moins nuls. Mais ce n'était pas leur âge qui faisait qu'ils étaient nuls. C'était tout un tas de raisons, soit professionnelles, soit personnelles, mais qui n'étaient pas liées à l'âge qu'ils avaient. Hein. Et les quelques membres du jury Goncourt qui étaient plus jeunes n'étaient pas plus assidus aux réunions ou moins liés à des éditeurs dans des trucs bons que les autres. Hein, voilà. Mais là aussi, c'est facilement, quand vous voyez parfois des gens qui vous parlent de l'Académie française, c'est vrai que bon, mais quand vous voyez des gens qui vous parlent souvent de l'Académie française, en gros, ils vont placer là aussi comme la cause explicative du fait qu'elle ne fait pas grand-chose serait due à l'âge moyen, en gros, des personnes qui y sont. Bon. Sauf que quand on prend l'Académie française de 1920 ou celle de 1850, qui faisait pas plus grand-chose que celle d'aujourd'hui, elle était bourrée de trentenaires et de quadragénaires et de quinquagénaires. Voilà. C'est ça qui est dangereux avec ces questions d'âge. C'est que très facilement, la vieillesse, l'âge, nous sert de cause explicative et nous empêche parfois de s'interroger sur d'autres éléments. Pour reprendre la question des députés ou des sénateurs, on a évidemment, enfin ça me paraît évident, peut-être pas pour... On a évidemment en France aujourd'hui un problème de durée. Un problème de durée, c'est-à-dire que pas un problème d'âge. Si vous avez le principal problème dans le fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de sénateurs de 70 ans, c'est que ça fait 50 ans qu'ils sont sénateurs. C'est pas qu'ils ont 70 ans. Voilà, c'est... que dans une assemblée représentative, qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des députés de 18 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 70 ans, de 110 ans, bah oui, ça reflète, le but, je crois, c'est que ça reflète justement à peu près ce qui se passe dans notre pays. Hein. C'est pas l'âge le problème. Le problème, c'est en effet cette espèce de professionnalisation de la vie politique, et du coup, c'est une question de durée. C'est une question que, quand on est député ou sénateur depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il se passe certaines choses, mais ce n'est pas parce qu'on a 70 ans. Hein, c'est là aussi facilement, hein, on va prendre l'âge, on va réfléchir sur l'âge ou accuser l'âge, hein, au lieu éventuellement, ce qui serait peut-être plus intéressant, de travailler sur d'autres aspects. Hein. Voilà, donc je crois que c'est par rapport... juste une question peut-être, excusez-moi de m'interrompre. Ça fait combien de temps que je parle à peu près? Parce qu'on m'a dit que j'avais... Hein,
39.
Ça fait 80 ans que je parle. Alors, c'est ennuyeux à ce point-là. Non, non, mais c'est pas grave ça, mais 35 minutes à peu près. D'accord. Ok. C'est pour... voilà. Alors, peut-être parler... à parler quand même des aspects un petit peu économiques, il faut bien y arriver, un petit peu. Parce que ça fait partie, en général, le discours, pour caricaturer, disons, ils sont trop nombreux, les vieux, et précédé ou suivi très vite du « ils coûtent cher », sous-entendu, « ils coûtent trop cher ». Alors ça, c'est intéressant aussi sur plusieurs aspects. Avant peut-être de rentrer un petit peu plus en détail sur des questions de santé ou de retraite, c'est intéressant déjà, je crois, de le souligner, on a très facilement, et ça c'est vraiment une question, c'est pas, ça touche pas, rien à voir non plus avec la vieillesse, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand sur un sujet, on lit ou on entend très souvent cette idée-là ou cette phrase-là, ça coûte cher, eh bien très facilement, au bout d'un moment, on devient l'air de rien convaincu que ça coûte trop cher. Très facilement, quand on entend un discours du type « on dépense beaucoup d'argent pour », et ben, au bout d'un moment, on finit par être convaincu qu'on en dépense assez pour. Hein? C'est-à-dire que très vite, on passe de questions justement du type ben, « voilà, on dépense beaucoup d'argent pour la santé » à « on dépense suffisamment pour la santé », voire « on dépense trop pour la santé ». C'est-à-dire que, à force de lire qu'on dépense beaucoup, on se pose même plus la question de savoir si on dépense assez, et entre parenthèses, si on dépense bien, enfin pertinemment. Voilà. Mais ça fait partie là aussi, hein, je crois que c'est la première chose à souligner par rapport à ce discours-là. C'est-à-dire qu'à force d'avoir ce discours, qui est un discours du genre « on dépense beaucoup », il y a quelques mois, c'était fascinant. Hein, des derniers dans l'actualité aussi, vous avez peut-être vu ça, c'était un grand titre carrément dans Ouest France, « impôts locaux toujours plus haut, la faute au social et aux personnes âgées ». Point barre. Voilà. Hein? Oui, non, non, mais c'est quelque chose qui est ça très fortement, hein, qu'on a de plus en plus souvent. Alors là aussi, il y a plusieurs choses par rapport à ça. D'une part, il y a un aspect très... il y a un aspect... comment dire ? Faux. Faux au sens où, si vous regardez, mais alors c'est des études pénibles à lire, et enfin voilà, je peux vous le dire. Si vous regardez par exemple les travaux des économistes de la santé qui se sont penchés un peu précisément sur, qui ont pris toute l'évolution des dépenses de santé en France des années 1950 jusqu'à aujourd'hui, hein, la part de ce qu'on appelle le vieillissement de la population dans cette augmentation est relativement faible. Elle est plus faible, par exemple, que la part due au changement des techniques médicales, notamment. Hein. Un soin aujourd'hui, un examen aujourd'hui, coûte au niveau, justement, des appareils qu'on utilise, de tout un tas de choses, énormément plus cher qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. C'est-à-dire que l'évolution de la médecine, l'évolution des techniques, l'évolution des appareils joue un plus grand rôle dans l'évolution, dans la progression des dépenses de santé sur 50 ans que le vieillissement démographique de la population. Voilà. Donc déjà, là aussi, il faudrait modérer, hein, un certain nombre ce côté là aussi de vieillissement démographique pointé comme étant responsable, seul responsable de ces augmentations. D'autre part, je crois que c'est nécessaire aussi de rappeler, alors c'est même bizarre d'avoir à le rappeler, mais il faut, je crois, l'augmentation... jusqu'à présent, en tout cas c'est ce qu'a observé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé depuis 50 ans, l'évolution dans un pays des dépenses de santé correspond à une évolution dans ce pays de la qualité de vie, du bien-être, de l'état de santé des gens. Oui. Non mais, je suis désolé de devoir le rappeler, mais on finit là aussi par avoir de tels discours qui présente les dépenses de santé comme étant quelque chose, enfin de santé ou d'autres, hein, ou d'éducation ou de machin, comme étant des dépenses qui pèsent, qui sont des charges, qui sont des machins, qu'on oublie que ça correspond avant tout, même si après il peut y avoir d'autres soucis, d'autres problèmes, mais ça correspond avant tout à des gens qu'on soigne. Et qu'on soigne encore relativement bien dans notre pays par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays du monde. Hein. Mais je crois que c'est important de le rappeler. Hein. Les dépenses de santé, comme les dépenses d'éducation, comme d'autres types de dépenses, sont des indicateurs, ce que l'OMS appelle des indicateurs de civilisation. Voilà. C'est-à-dire que si on dépense plus en France pour la santé qu'au Burkina Faso, je crois qu'il ne faut pas trop le regretter non plus. Hein. Voilà. Mais voilà, bon, cela dit, par rapport à justement ces questions liées, on va dire, à ce coût, en quelque sorte, par rapport au vieillissement, là aussi, il faut, comment dire, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait distinguer. La majorité, par exemple, si on reste dans le cadre, dans un cadre économique, hein, la majorité des dépenses qui aujourd'hui sont utilisées pour accompagner, aider, prendre soin, soigner les personnes âgées, le sont lorsque ces personnes sont âgées. Oula, le sont lorsque ces personnes sont âgées parce qu'elles ne l'ont pas été ou peu été lorsque ces personnes étaient jeunes. Et oui, ça paraît là aussi. Voilà. Si une personne de 70 ans malade coûte de l'argent, c'est parce qu'elle est malade. C'est pas parce qu'elle a 70 ans. Hein. Si le cancer ou la maladie qu'elle a à 70 ans, elle l'avait eu à 40, ça aurait aussi coûté de l'argent de la soigner. Et on peut même dire, on le sait, malheureusement d'une certaine manière, ça aurait coûté même plus cher quand elle avait 40 ans, parce que l'accès aux soins et à certains types de soins est plus facile quand on a 40 ans que quand on en a 80. Voilà. C'est-à-dire que si on dépensait pour les personnes âgées malades autant qu'on dépense pour les personnes moins âgées malades, les fameuses dépenses de santé seraient plus importantes. Hein. L'accès aux soins et à certains types de soins est plus difficile au fur et à mesure que l'âge augmente au bout d'un certain moment. Voilà. Donc je crois que là aussi, faut rappeler ça. Hein. L'argent qu'on utilise pour soigner une personne, pour prendre soin d'elle, etc., en général, voilà, si on l'utilise à 90 ans, au lieu d'avoir eu à l'utiliser à 40, on devrait plutôt en être content. La majorité d'entre nous, oui, dans le sens où, voilà, la majorité d'entre nous sommes plutôt handicapés ou malades quand on est très vieux que quand on est jeune. Voilà, c'est plutôt bien. Hein. Enfin, moi je trouve. Bon, après, chacun. Bon. Non, mais voilà, ça fait partie là aussi des choses qu'il faut rappeler. C'est pas l'âge, c'est pas parce que les gens sont vieux qui coûtent cher. C'est parce qu'ils sont malades et qu'on les soigne. Voilà. Mais c'est sûr que quelqu'un qu'on soigne pas coûte moins cher que quelqu'un qu'on soigne. Un enfant qu'on n'éduque pas, un analphabète, coûte moins cher qu'un enfant qui a fait des études, qui a pu aller au collège, au lycée, à la fac. Hein. C'est, voilà, bon, c'est des évidences, mais là aussi, parfois, faut les rappeler. Après, si on regarde, si on veut aller plus loin, c'est-à-dire si on regarde justement ces questions, est-ce que l'âge aujourd'hui, derrière, alors on a ce discours en effet un peu qui bouc émissarise comme ça, si on regarde derrière, les personnes, pour le dire de manière un peu brutale, les personnes âgées, malades ou handicapées qui vivent aujourd'hui en France, devraient coûter beaucoup plus cher. Si on voulait en prendre soin, les aider et les accompagner mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Ça, je crois que là-dessus, il faut être très clair aussi. On ne dépense pas suffisamment par rapport, justement, à un certain nombre de choses. Donc, le discours « ça coûte cher », ça ne doit pas nous masquer que ça devrait coûter plus cher. Et puis, un peu différemment sur certaines choses, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est important, là aussi, de le souligner. Sinon, on en arrive, j'ai entendu quelqu'un dans la salle utiliser ce mot-là tout à l'heure, on en arrive et il y a des gens qui en parlent, un peu discrètement encore, à des formes pratiquement à des fantasmes d'euthanasie économique. Eh oui. Alors, vous avez des pays en France, on est relativement encore, je dis bien relativement, Il y a relativement peu de discours là-dessus pour l'instant en France. Mais là aussi, on en a, et on en a y compris, je sais pas, je vais peut-être vous donner une ou deux citations quand même sympathiques. Vous avez en France un journal, par exemple, qui s'appelle Le Quotidien du médecin, comme son nom l'indique. Voilà, bon, c'est le journal principal lu en France par les médecins. Et un éditorial de ce journal-là se terminait il y a quelque temps par la phrase « Même les gens âgés doivent participer à la production nationale ». Si nous étions extrêmement cyniques, bien sûr on ne l'est pas, hein, mais si nous étions extrêmement cyniques, nous dirions que le moment arrive où, du point de vue de la dépense publique, il vaudrait mieux que meurent les gens qui veulent rester oisifs. Ça, c'est quand même sympathique. Non, mais c'est pour vous dire, je pense que, bon, mais ça c'est autre chose que l'éditorialiste du Quotidien du médecin est un dangereux con, mais ça c'est mon opinion qui ne regarde que moi. Il a quand même écrit ça dans ce journal-là, ça a pas, voilà, il est toujours éditorialiste de ce journal-là. Hein. Ça veut quand même dire certaines choses. Alors si on est très optimiste, ça veut dire qu'il n'y a plus un seul médecin qui lit ses éditoriaux, ce qui serait plutôt sympathique. Mais je ne sais pas si on peut être aussi optimiste. Vous avez en France un économiste qui s'appelle Alain Cotta, qui est quand même un type qui a, on va dire, pignon sur rue, d'un point de vue article, etc. Alors qu'il vous écrit, par exemple, « Compte tenu de l'augmentation abrupte du coût de maintien en vie de la population du quatrième âge », vous voyez cette manière de présenter les choses. Alors la conclusion pour lui, c'est qu'il va y avoir justement le transfert démographique accroîtra son intensité et présentera un tout nouvel aspect social. Et il poursuit dans un autre truc en disant justement « il faut réfléchir, il faudrait que les... » Je ne sais plus où j'ai la... mais il faudrait en gros que les médecins réfléchissent aussi en termes économiques à ce qu'ils font. Vous voyez à peu près ce qu'on a là derrière. Qu'est-ce que je peux... Alors, attendez, j'en ai une ou deux autres quand même assez sympathiques, si j'arrive à vous les trouver. Hugues de Jouvenel, ça vous dit peut-être quelque chose qui est... Je ne sais pas... Hugues de Jouvenel, qui est rédacteur en chef d'une... alors, attendez, d'une... Comment ça s'appelle, déjà Bon. Vous voyez que les troubles de la mémoire, là aussi, n'ont pas spécialement de rapport. Bon. On s'en fout. Merci. Sur Europe 1. Forcé de constater que la consommation médicale augmente avec l'âge. Or, notre masse financière est limitée. Nous ne pouvons pas à la fois faire des prothèses osseuses sur des personnes âgées et en même temps développer des services pour des enfants en bas âge, faire des opérations sur les actifs. Nous sommes obligés de choisir. Voilà. Futurible, la revue. Ça s'appelle Futurible. Ce qui est intéressant... ce qui est très intéressant, parce que là aussi c'est un piège, je crois, c'est ces situations, en effet, c'est ce type de discours qui nous place en effet dans le « nous sommes obligés de choisir ». Et très souvent le piège, si je vous disais par exemple, imaginez un urgentiste, il y a un enfant qui arrive, il y a un vieux qui arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien on va se mettre à réfléchir à ce qu'il fait. C'est-à-dire que très facilement, on va se retrouver à réfléchir sur qui il faut sauver ou qui il faut sacrifier au lieu de réfléchir sur comment on fait pour ne pas arriver à une situation de choix. Parce qu'à partir du moment où on choisit, on est dans la barbarie. Mais facilement, quand on crée une sorte de cadre comme ça, dans lequel on nous présente les choses avec ce type de « il faut choisir », très facilement, on a parfois du mal, voilà, à aller en amont de ce cadre-là, hein, et on peut se retrouver à se mettre justement à travailler sur, mais finalement, voilà, qui on va sacrifier, quoi, hein, plutôt que de travailler justement sur comment est-ce qu'on peut, dès aujourd'hui, hein, travailler sur tout un tas de choses pour éviter d'avoir jamais, justement, à faire ce type de choix-là. C'est parce que c'est un discours, ça, on le retrouve, donc là, Jouvenel, c'est en France, mais ça, c'est un discours très, très fort hein, dans certains pays, alors en Australie, aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose, l'utilisation, cette espèce de type de truc, hein, il faut... vous avez des discours aux États-Unis sur, voilà, à chaque fois qu'on soigne une personne âgée, c'est un enfant qu'on... voilà, c'est vraiment des choses absolument très, très, très violentes hein, par rapport à ça, dans ces manières de présenter les choses en opposition. Hein, c'est-à-dire toujours avec l'idée qu'il faut, qu'on n'a pas le choix et qu'il faut sacrifier. Quoi, hein, voilà. Ça fait partie, je crois qu'il faut, il faut qu'on soit vigilant là-dessus et il faut qu'on soit vigilant justement sur le fait d'avoir, quand on nous dit dans le domaine de la santé, il n'y a pas le choix entre ça et ça, à ce moment-là, il faut s'arranger parce qu'il y a le choix peut-être entre la santé et autre chose pour faire que dans le domaine de la santé, on n'en arrive pas à, il n'y a pas le choix entre ça et ça. Hein. Il y a toujours le choix. Politiquement, socialement, il y a toujours le choix au sens, c'est à nous. De travailler, de militer, de voter, de tout un tas de choses. Mais c'est à nous, justement, de travailler sur, pour éviter qu'on en arrive à une situation où on nous mettra hein, dans quelque chose, où on sera en quelque sorte condamné à choisir. Hein. Parce qu'à partir du moment où on est condamné à choisir, on est, en effet, quel que soit le choix qu'on fait, on est dans une forme de barbarie. Hein, parce que le sacrifice, c'est de la barbarie. Voilà. Et on est dans des sociétés quand même, quel que soit ce qui se passe en ce moment, suffisamment riches pour pouvoir ne pas sacrifier qui que ce soit. Hein, voilà. On voit bien qu'on trouve de l'argent pour certaines choses quand il faut impérativement en trouver. Comment dire je voulais parler un peu des retraites, mais... Non, c'est juste qu'il me reste un quart d'heure à peu près. Bon. Je peux déborder. Bon. Non, mais en même temps, je ne sais pas, c'est un peu emmerdant le sujet des retraites. Non, simplement, peut-être juste attirer votre attention sur ce phénomène qu'on a aujourd'hui, là aussi, très facilement quand même, de bouc émissarisation des retraités. De bouc émissarisation au sens, vous avez là aussi de plus en plus souvent en France, hein, mais. Allez voir sur Internet, c'est peut-être encore plus fort là aussi que dans des médias un peu plus policés, un discours parfois très violent contre les retraités, hein, vraiment clairement accusé de vivre aux dépens des jeunes. Hein. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est un discours qui fait complètement abstraction de la réalité. La réalité, vous la connaissez, la majorité des retraités en France, comme la majorité des gens en France, sont ni riches ni pauvres. Ils s'en sortent, voilà. Pardon ? Oui, je sais pas qui a parlé. Non, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses. Et en effet, on est dans un système par répartition, et en effet, durant leur vie active, ils n'ont pas payé leur retraite. Ils ont payé, durant leur vie active, la retraite de ceux qui étaient à la retraite. Oui, c'est ça. Et ce système par répartition... Mais alors ça, regardez, un mot là-dessus, c'est rigolo. Quand on parlait tout à l'heure du conservatisme, quand vous avez eu en France, ces dernières années, à chaque fois qu'un économiste français, qu'un journaliste économique français voulait convaincre la France que les retraites par capitalisation, c'était mieux que les retraites par répartition, un des thèmes qu'on retrouvait, c'est en gros les retraites par répartition, c'est réac, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui défendaient les retraites par répartition, c'était quand même là aussi des conservateurs, des gens accrochés à leurs habitudes, au passé, etc. Voilà, moyennant quoi les retraités américains aujourd'hui sont, une grande partie d'entre eux, sont totalement ruinés. Hein. Voilà. Mais voilà, ça fait partie là aussi, ça a été quelque chose hein, d'énormément utilisé hein, comme espèce d'argument, c'est-à-dire les retraites par capitalisation, c'est forcément être progressiste, c'est forcément le progrès, les retraites par répartition, c'est voilà. Bon. Résultat, heureusement, on est un des pays, justement, occidentaux, à avoir eu la moindre part de tout ce qui touche aux retraites comment on appelle ça là, fonds de pension, tout ça, donc heureusement. Mais là aussi, c'est important, je crois, de le souligner, de faire attention à ces effets d'uniformisation et à ces effets de les retraités. À partir du moment où, d'une certaine manière, là aussi, à partir du moment pratiquement où on commence une phrase par les retraités, on risque de dire une connerie. Non mais, excusez-moi, mais sauf si, bon, bah, les retraités, ils sont à la retraite, quoi. Bon, là, ça va. Mais là aussi, si on commence à dire quelque chose sur les retraités et à en tirer une conclusion censée être valable pour l'ensemble des retraités, on va... Mais c'est valable pour tous. C'est pour ça que là, je crois qu'on en a... On l'évoquait tout à l'heure. Ce qu'il y a à la base de l'agisme, c'est bien pour ça qu'on le retrouve à la base du racisme, à la base du sexisme, à la base de tout ça. Ce processus-là de généralité, d'uniformisation des gens, toutes les femmes seraient, tous les hommes seraient, tous les retraités seraient... Ce processus-là, on le retrouve dans toutes ses formes, en effet. Voilà, c'est pas lié, ça, à des questions d'âge. Hein. Voilà. Les seules choses qu'on observe, ou clairement, par rapport à l'âge, les effets, et c'est important de le savoir, ça, quand même, je crois, là aussi, des gens qui ont étudié ça précisément, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des formes de... comment on pourrait appeler ça? Je sais pas, de... Les choses sont beaucoup plus extrêmes par rapport à la pauvreté comme par rapport à la richesse dans le grand âge. C'est-à-dire que les, en gros pour le dire comme ça, les vieux riches sont en général encore plus vieux riches qu'ils étaient riches jeunes. Parce que la plupart du temps, les vieux riches étaient déjà riches avant. Hein. C'est pas... Voilà. Hein. Parce qu'on a des effets, en effet, d'accumulation. Hein. Le petit Dassault à 20 ans, il était déjà assez tranquille, je pense, économiquement. Voilà, ce qu'il a fait ensuite. Voilà, bon. On a l'inverse aussi. Hein, c'est-à-dire que les personnes de être nonagénaires pauvres en France aujourd'hui, très souvent, c'est des situations de misère encore pires que ce qu'on va observer sur des situations de misère de gens qui ont 20 ou 30 ans, qui en plus, justement, physiquement, pour tout un tas de raisons, voilà. Peuvent arriver parfois à se dépatouiller un peu plus que quelqu'un d'extrêmement âgé ou d'extrêmement fragile. Hein. Voilà. Mais à part ça, la grande masse... Mais du coup, ça trompe au niveau... Mais là aussi, on n'a pas... Mais c'est là que ces chiffres, hein, ça trompe au niveau des moyennes. C'est-à-dire que quand vous donnez... Alors, ça ne trompe pas avec la retraite. C'est-à-dire quand on dit en France, la retraite moyenne aujourd'hui, ça tourne autour de 1200 euros... Ça montre quand même que ce n'est pas la retraite moyenne. Hein. Attention avec les moyennes, c'est pour ça. Mais enfin, ça montre quand même ce chiffre des moyennes, ça montre quand même que tous les retraités ne sont pas ces espèces de seniors triomphants en chemise Lacoste, le sac de golf à l'arrière, les croisières, enfin bon, voilà. Toute l'image qu'on peut avoir dans certains médias, qui est une image très, en plus... je dirais très parisianiste. Hein. Quand vous regardez certains magazines, le senior, c'est vraiment, c'est le boulevard Saint-Germain. Quoi. Je ne pense pas que la totalité de la France habite boulevard Saint-Germain. Enfin, j'en suis sûr. Mais... BHL, oui. Enfin, à côté, je crois. Bon. voilà. Mais peu importe, laissons BHL. Non, mais par exemple, même pour ne pas parler de l'âge une seconde, quand la retraite moyenne qui tourne autour de 1200 euros par mois, vous avez 600 euros d'écart. Si vous déjà, au lieu de prendre cette retraite moyenne, vous prenez la retraite moyenne des femmes et la retraite moyenne des hommes. La retraite moyenne des hommes aujourd'hui en France est d'environ 600 euros de plus que celle des femmes. Voilà, hein. Du coup, déjà, la moyenne 1200 euros, voilà déjà une grosse information que ça ne dit pas. Hein. Et ce que dit pas là non plus cette moyenne-là, c'est en effet, comme toute moyenne, ça dit pas comment se situent les gens sur l'échelle. C'est-à-dire que si vous regardez après comment se situent les gens sur l'échelle, vous avez en effet... Et c'est là que c'est trompeur, c'est que très souvent, c'est pas le chiffre des retraites qui sont utilisés, ça va être le chiffre où on met tout, c'est-à-dire retraite plus patrimoine. Et là, très souvent, du coup, avec ça, vous avez ce discours sur... Voilà, les retraités, vraiment, en France, ça va. Parce que quand on met retraite plus patrimoine et qu'on fait une moyenne, on a l'impression, et c'est vrai, quand on fait une moyenne, c'est mieux que les actifs. Il faut impérativement, par rapport à ça, là aussi, regarder où se situe la grande masse des gens. Hein. 70%, enfin, pour le dire autrement, 70% du patrimoine en France... des retraités est détenu par environ 20% d'entre eux. Voilà. Hein. La masse des retraités n'a pas ou très peu de patrimoine. Voilà, hein. Mais là aussi, si on donne la moyenne, on peut facilement, moi je peux facilement, Jean l'a dit tout à l'heure, je suis un menteur. Donc, je pourrais facilement, là, si je prenais 5 minutes pour bien le peaufiner, vous faire un petit paragraphe là, où je vous montre avec 2-3 chiffres à l'appui, que, voilà, que vraiment les retraités de France, c'est, ils vivent, pff, voilà. Mais vous en avez un, je ne sais pas si vous connaissez un type qui paraît-il, parce que j'écoute peu la radio, mais il y a un monsieur qui parle, paraît-il, souvent à la radio, qui a sorti un livre à destination des, entre guillemets, seniors. Le livre s'appelle, je crois, « Appauvrissez-vous ». On voit à peu près ce qu'il a derrière la tête. François de Witt, ça vous dit quelque chose? Non? Bon. Chroniqueur sur France Info, semble-t-il. Donc voilà. Alors lui, vous écrit « Les seniors détiennent plus de la moitié du patrimoine ». Donc voilà, les seniors détiennent plus de la généralité qui permet, voilà. De surcroît, ils perçoivent des retraites qui ne sont pas toujours négligeables. Vraiment. Ils ont accumulé plus d'argent qu'ils ne pourront jamais en dépenser jusqu'à la fin de leur jour et ils disposent d'un excédent considérable. Et du coup, ce monsieur milite, par exemple, une des solutions pour ce monsieur, c'est, au-delà de 70 ans, de ne plus indexer les retraites. Eh ben oui, puisque... Ah, mais dans les solutions rigolotes, il y avait celle... Enfin, rigolote, excusez-moi du terme. Il y avait celle de ce... cet homme politique italien, vous vous souvenez, qui s'appelait Romano Prodi, qui a présidé un moment la Commission européenne, donc qui exposait ce qu'il appelle, comme beaucoup de gens, le problème des retraites, et il disait « Une partie de la solution est de réformer l'État-providence, bien entendu, de manière à ce que la population active n'ait plus à payer la protection des retraités. C'est aux retraités à payer leur retraite. » Alors. Voilà, au niveau de la répartition, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça peut fonctionner, mais voilà. Non, en fait, ça voulait dire il faut passer à un système par capitalisation. C'est ça, bien entendu, que ça voulait dire. Mais là aussi, c'est très souvent, hein, c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus, tout un tas de discours, là aussi, très, très accusateurs, reposent sur ce stéréotype qui est les seniors ou les retraités ou les personnes âgées. Alors là, en général, on dit plutôt seniors retraités. Dans ces cas-là, on ne voit pas trop personnes âgées. Sont aisés, sont riches, enfin, tout ce discours-là. Bon, je vais quand même arriver un peu vers la fin. Enfin, oui, je vais quand même bientôt me taire parce que je pense que c'est important qu'on discute un peu ensemble. Non, je voudrais terminer sur deux petites choses. Revenir sur l'aspect un peu banal, parce que je vais vous dire une phrase que j'entends souvent de la part de personnes, on va dire, plus vieilles que moi, de personnes âgées. C'est la phrase quand on parle. Alors souvent, c'est intéressant parce que on parle, par exemple, de tout ça, des clichés, des stéréotypes, des représentations des âges. Et puis, par exemple, il y a une personne donc âgée qui, à un moment, me dit « Oui, moi, j'ai 80 ans, mais je suis toujours jeune dans ma tête. » Et là, je me dis, voilà à quel point c'est profond. C'est-à-dire que cette expression-là, que vous avez peut-être déjà dite, que moi, je dirais peut-être un jour sans même m'en rendre compte, ça veut dire que fondamentalement, on a intégré le fait qu'être jeune dans sa tête, ça veut dire... Alors, ça veut dire quoi? En tout cas, c'est bien. Être jeune dans sa tête, ça veut dire, en tout cas, c'est positif. Être vieux dans sa tête, donc, ça ne l'est pas. Hein? C'est-à-dire que là aussi, tout d'un coup, le fait, je pense que vous l'avez, mais là aussi, il faut peut-être le rappeler, Brassens le chantait bien, le temps ne fait rien à l'affaire, quand même. Je ne sais pas, il me semble, ou alors je suis vraiment, j'ai une vision bizarre des choses, mais moi, il me semble que quand je rencontre des gens, je rencontre par exemple des cons et des gens intelligents, je rencontre des gens sympathiques et des gens antipathiques, ouais, je rencontre des jeunes cons, des vieux cons, des jeunes intelligents, des vieux intelligents, des... Non mais, voilà. J'ai jamais été frappé qu'à un certain âge ou certaines générations, tout d'un coup, justement, comprendraient plus tout d'un coup de gens sympathiques ou intelligents ou machin, etc. Je rencontre des vieux extrêmement curieux et puisque ce terme de curiosité souvent est associé justement à cette jeunesse de l'esprit, et je rencontre beaucoup de jeunes qui sont vraiment pas très curieux. Voilà. Mais c'est intéressant, ça qu'on peut observer quotidiennement. Enfin, ça nous paraît, c'est du bon sens de dire que le temps ne fait rien à l'affaire et que ce n'est pas une question d'âge, et bien ça, l'air de rien. Quand on dit « je suis toujours jeune dans ma tête », ben c'est l'inverse qu'on dit. On dit que pour nous, être jeune dans sa tête, ça veut dire forcément que c'est bien, et être vieux dans sa tête, ça porte un certain nombre de valeurs négatives. Hein. Donc je crois que ça, je voulais parler de ça parce que c'est vraiment cette manière, je crois que c'est vraiment une des... C'est ça le problème à un moment de vivre dans une culture où d'une certaine manière on peut avoir des expressions comme ça, extrêmement banales, extrêmement quotidiennes, mais qui sont des expressions qui portent le stéréotype, qui portent le cliché. Hein. Et ça ne nous choque pas en effet de dire « moi, voilà, je suis jeune dans ma tête, je suis vieux mais je suis jeune dans ma tête ». Imaginez, je ne sais pas, imaginez qu'un noir vous dise « oui, je suis noir mais je suis blanc dans ma tête ». Mais on rit. Il y en a peut-être qui l'ont dit. Voilà. C'est-à-dire, non, mais c'est ça qui est intéressant. Hein, c'est de voir, ou imaginons, bon, voilà, on peut. Non, mais pour dire, je crois qu'il faut faire attention, voilà, à tout ce qu'une culture aussi peut charrier à un moment. Et quand BHL, je vais revenir une seconde sur BHL, non, mais pas pour l'accabler, justement. Quand BHL, qui, quel que soit ce qu'on en pense, est quand même habitué normalement à une vigilance par rapport à toutes ces histoires de clichés, de stéréotypes racistes, etc. Quand il balance, qu'il a balancé là un vieil humoriste, donc qui sait plus ce qu'il dit, d'une certaine manière, il est agiste quand il dit ça, mais il l'est en toute inconscience de l'être. Il est agiste quand il dit ça comme, je sais pas, comme Scarlett O'Hara était raciste quand elle disait que les Noirs pensaient pas, mais parce que pour elle, elle avait toujours baigné là-dedans, quoi. Hein? C'est-à-dire qu'elle était raciste sans avoir conscience de l'être, comme BHL est agiste sans avoir conscience de l'être. Voilà. Il se trouve qu'il est un peu moins excusable. Alors, c'est la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que du coup, ça ne veut pas dire qu'on est dans une société aujourd'hui agiste? Ah ben voilà, donc c'est bon, on est d'accord. Scarlett O'Hara vivait dans une société raciste comme nous, on vit dans une société agiste. C'est exactement ça, je crois qu'on dit tout, c'est bien, super. Bon, dernière chose. Je voudrais finir, parce que j'ai quand même du coup beaucoup parlé des aspects un petit peu économiques. Je crois que c'est important aussi simplement de rappeler, derrière tout ça, il y a quand même la question aussi de ce qu'une société, à un moment, a comme modèle. Le modèle, comme modèle en quelque sorte de l'homme idéal, hein, de l'homme avec un grand H. Attention, surtout. Bon. Aujourd'hui, si on a aussi tout cet agisme-là, c'est qu'on a un modèle de l'homme idéal qui est quand même fondamentalement associé, l'homme idéal, à des valeurs qui sont elles-mêmes très associées à la jeunesse, au niveau de la rapidité, au niveau de la rentabilité, au niveau de l'utilisation du corps, plus que peut-être de certaines facultés mentales. Et qu'on a une vision extrêmement, c'est pas un hasard en effet, on le disait au début, si ce vieillissement démographique, si cette transformation de la pyramide démographique effraie certaines personnes, ça effraie ceux pour qui l'homme idéal, c'est celui qui travaille, qui est rentable, qui est performant et qui a entre 25 ou 30 ans et 45 ou 50, hein, qui consomme également. Oui, tout à fait. Et je me tais dans une minute, c'est promis, parce que je vois que vous avez envie de parler. Moi aussi, j'ai envie de vous entendre, mais je finis ma phrase, simplement. Et voilà, mais c'est ça qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que c'est des choses au-delà de certains éléments liés à l'agisme lui-même. C'est en effet, hein, sur cette question aussi qu'il y a derrière, de quel modèle, dans quelle culture, dans quelle civilisation, qu'est-ce qu'on est en train, justement, peu à peu, d'avoir comme modèle un petit peu de l'être humain. On est déjà, voilà, Est-ce qu'il faut absolument qu'il soit rapide? Est-ce qu'il faut absolument qu'il soit rentable? Est-ce qu'il faut absolument qu'il soit jeune? Est-ce qu'il faut absolument qu'il soit complètement entier, surtout pas avec un handicap? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut? Hein, je crois que ça fait partie là aussi des choses intéressantes. Et je crois qu'il est important, il peut être important, et il est important dans tout un tas de contextes de se poser aussi des questions, en effet, en termes d'économie, mais que fondamentalement, je crois qu'il faut là aussi le rappeler, la valeur de l'homme vient de ce qu'il n'a pas de valeur, sous-entendu économique. Hein? Ça, je crois, parce que sinon, en effet, parce que imaginons à la limite le pire, quand on a ces discours sur le coût du vieillissement ou le coût des personnes âgées, malades, ou etc. Imaginons que ça soit encore beaucoup plus cher. Imaginons qu'aujourd'hui, pour prendre soin bien d'une personne âgée malade, il faille dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les tue pour éviter ça? Ou ça veut dire qu'à un moment, on se donne en effet les moyens que se donne une civilisation d'avoir certaines valeurs, et parmi ces valeurs, d'avoir celles que, en effet, le fait de prendre soin, d'aider, d'accompagner, de soigner des gens les plus vulnérables d'entre nous, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est ce sur quoi est fondée notre civilisation, et que si on abandonne ça au nom justement d'une valeur économique de l'être humain, on passe dans un type de société radicalement différent. Pour moi, qui est de la barbarie, ça ne l'est peut-être pas pour d'autres, mais en tout cas, je crois que c'est vraiment des questions là de civilisation qu'il y a aussi derrière tout ça. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là, c'est promis, je vous l'ai promis. Ça va réagir, en tout cas, c'est bien. Bon.
Bon ben merci pour cette première partie. Il y a une petite contrainte un petit peu embêtante. On vous demande d'utiliser le micro quand vous posez les questions, tout simplement parce que ces rencontres sont enregistrées. Ça enregistre. Et vos questions, si vous ne les dites pas dans le micro, on ne va pas les entendre. Et donc c'est un petit peu gênant parce que, comme elles sont enregistrées, bien évidemment, elles sont diffusées, et elles sont diffusées en ligne sur Internet, donc d'autres personnes qui ne sont pas venues peuvent les écouter, alors c'est à eux qu'on pense aussi. Voilà. Alors si vous avez une question à poser, si vous avez quelque chose à dire, pas simplement des questions, voilà, vous avez le micro.
Oui, vous parliez tout à l'heure des coûts qui sont de plus en plus élevés, non pas dus aux soins eux-mêmes, mais aux appareils. Mais ces appareils permettent, je pense, des soins plus actifs qui coûtent éventuellement moins cher que si. Est-ce que c'est mis en parallèle?
En partie. Non, mais quand je disais que c'est le coût des appareils, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de moins bons appareils ou des appareils moins chers. Ça veut dire qu'une partie, en effet, des dépenses est due à ces progrès des appareillages. Après, le problème, mais là, on partirait un peu sur un autre débat, est-ce que ces appareils qui coûtent cher sont toujours utilisés à bon escient? C'est peut-être ça qu'il y a aussi derrière votre question. Non,
non, derrière ma question, ce n'était pas ça qu'il y avait. C'était, bon, il y a un coût, oui, mais il y a un gain. Et est-ce que ce gain, on en tient compte?
On en tient compte, oui et non. Quand la majorité des dépenses de santé sont des dépenses qui améliorent, qui ont amélioré et qui continuent à améliorer en France l'état de santé des gens. Donc on en tient compte dans la mesure quand même où ça on le mesure, on le voit bien. On n'a pas une augmentation des dépenses de santé au fur et à mesure qu'on aurait un déclin de l'état de santé, de l'espérance de vie, du nombre de maladies dont on guérit, etc. Donc il y a bel et bien cette mesure-là. Après, je vous dis, le problème plutôt des techniques, c'est que ces techniques, il y a le recours. On a un recours parfois un peu excessif, on va dire, à certains examens ou à certaines techniques coûteuses qui ne sont pas toujours, justifiées. Voilà. C'est pour ça que je précise toujours, il s'agit, je pense qu'il faudrait dépenser plus, mais il faut aussi en partie dépenser autrement, c'est-à-dire travailler aussi sur la manière dont on dépense. On ne dépense pas toujours extrêmement pertinemment. J'espère que ça va pas venir ça peut devenir un débat sur la santé, mais j'y participerai pas beaucoup parce que je suis pas du tout spécialiste de ces questions d'économie de la santé.
Non, mais Moi, je voudrais, ah, oui. Je voudrais lancer le débat sur l'âge du départ à la retraite. Parce qu'effectivement, dans les années 50, 12% de la population avait plus de 65 ans, mais 65 ans, c'était l'âge du départ à la retraite. Bon, en 2030, 12% de la population aura plus de 75 ans. Est-ce que finalement, l'objectif, c'est que, ben, en 2030, on part à la retraite à 75 ans ? Alors moi, je répondrais oui. Moi, ça me semblerait un progrès énorme de dire que finalement, on mène des vies professionnelles tellement passionnantes qu'on continue très tard. D'ailleurs, la preuve, c'est que les députés, les sénateurs, les membres de conseil d'administration, les artistes, les évêques, les prêtres, etc., prennent leur retraite plutôt vers 80 ans. Mais en tout cas, on a vu sur ces questions d'âge de départ à la retraite, on a vu cet âge diminuer récemment avec trois argumentations. Il y a une première argumentation qui était de dire il faut mettre la retraite à 60 ans au lieu de 65 pour donner du travail aux jeunes. Donc c'était le premier argument. Il y a du chômage. Donc, mettons les anciens à la retraite, ça donnerait du travail aux jeunes. C'était le premier argument. Il y a un deuxième argument qui était de dire il y a des gens qui ont une vie professionnelle tellement pénible qu'ils sont usés. Hein, et donc, ce serait un progrès social de les mettre à la retraite à 60 ans au lieu de 65. Je pense qu'on est complètement dans le choix, est-ce qu'il faut sacrifier les jeunes ou les vieux, là, mais bon. Et puis, il y a eu un autre argument qui a été très utilisé, qui était de dire on met même les gens en pré-retraite. Hein, et là, si on les met en pré-retraite, hein, c'est pas parce que c'est pas pour donner du travail aux jeunes, c'est parce que de toute façon, à plus de 55 ans, ils sont devenus complètement inopérants, ils sont plus rentables, ils coûtent trop cher, etc. Et il faut s'en débarrasser dans les entreprises pour que les entreprises retrouvent de la rentabilité. Donc, il y a eu toute une série d'argumentations de nature très différente qui ont abouti à ce que l'âge de la retraite, qui était à 65 ans, est descendu légalement à 60, et même pour beaucoup de gens aujourd'hui, il est plutôt vers 57-58 ans. Hein. Bon. Alors qu'on pourrait aussi se dire que ce serait un énorme progrès que les gens aient des vies professionnelles tellement passionnantes qu'ils aient envie de les poursuivre le plus tard possible.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça. Il faudrait une soirée que là-dessus, pratiquement. Par rapport à l'emploi, le paradoxe, en tout cas, c'est qu'on est dans l'époque où, on l'a dit tout à l'heure, d'un point de vue état de santé, de tout un point de vue, on n'a jamais, pour le dire autrement, on n'a jamais été aussi longtemps jeune et on n'a jamais été aussi vite considéré dans certains milieux professionnels comme vieux. Il y a quelque chose de complètement paradoxal de ce point de vue-là. Hein, c'est-à-dire qu'on considère, vous avez aujourd'hui dans certains, alors ça dépend après des milieux professionnels, dans certains milieux à 45 ans, vous êtes un senior, vous êtes à la limite traité, voilà, has-been, comme dit madame, alors qu'un homme de 45 ans aujourd'hui, un homme ou une femme, hein, par rapport, mettez la majuscule à chaque fois. Un homme ou une femme aujourd'hui de 45 ans, je veux dire, par rapport à un homme ou une femme de 45 ans il y a 50 ou 100 ans, ça n'a rien à voir, en effet, en termes de... Après, le problème, ce que vous dites, c'est-à-dire, j'ai préféré la manière dont vous avez dit, dont vous avez parlé des députés ou des sénateurs ou des artistes la seconde fois que la première. Oui, ce qui serait un progrès, c'est que tout le monde ait des conditions de travail et des métiers suffisamment valorisants, passionnants, bien rémunérés, tout un tas de choses... pour avoir envie de bosser jusqu'à leur dernier souffle. Bon. Mais parce que le problème de prendre uniquement l'aspect démographique, de dire, voilà, aujourd'hui, on a en 2030, on sera 12% de plus de 75 ans, donc il faut que la retraite en 2030, ça soit en gros à 75 ans, comme c'était à 65 ans, quand il y avait à peu près 12% de plus de 65 ans. Là aussi, le problème de ça, c'est que ça nie totalement la diversité incroyable des situations à 60, 65 ou 75 ans. Vous avez bel et bien aujourd'hui en France des gens qui, à 60 ans, sont usés par leur travail. Voilà. Et ce n'est pas négligeable, il n'y en a pas peu. Hein. On a l'impression, là aussi, à entendre certains médias, qu'il n'y a plus d'ouvriers en France. Il faut peut-être rappeler qu'il en reste quelques bons millions. Hein. non, mais... Voilà, malheureusement, oui, c'est ça aussi. ce qui est et le problème aujourd'hui, c'est que vous avez tout un ce qui rend complexe aussi cette question-là, c'est que l'aspect, comment dire, l'aspect libéral, alors libéral au sens, oui, bon, non, le fait de dire, parce qu'après tout, on pourrait dire, il est important que, voilà, que la base, ça soit en effet une retraite à taux plein à partir de tel ou tel critère, etc., mais liberté totale pour ceux qui veulent continuer à travailler, de continuer à le faire. Plus ou moins, ça dépend. Enfin, c'est ce qui se passe clairement dans d'autres pays. Hein, c'est-à-dire que le fait d'être obligé, en quelque sorte, d'arrêter de travailler à un moment dans certains pays, c'est clairement perçu comme une discrimination due à l'âge. Hein. Voilà. Le problème, c'est que ce discours-là, qui est plutôt sympathique, peut servir de, on va dire, de cheval de Troie à quelque chose qui fait qu'après, dans un second temps, ça serait justement la retraite voilà, nécessaire au bout d'un certain temps pour tout le monde, etc., qui serait également remise en question. Vous l'avez remarqué, enfin, on va peut-être pas non plus partir dans ce débat-là ce soir, mais très souvent, tous les discours sur les machins à la carte, les machins qui nous donnent tellement de liberté, de souplesse, des machins, voilà, il faut faire attention, c'est parfois, il y a parfois derrière des arrière-pensées un peu moins belles. Hein. Voilà. Il faudrait en effet permettre beaucoup plus facilement, je pense, à des personnes après 60 ou 70 ou 80, pourquoi pas, de continuer à travailler. Ce qu'on constate quand même aujourd'hui, c'est que dans tous les pays où on a beaucoup de gens de 70 ou 80 ans qui travaillent, c'est parce qu'ils n'ont vraiment plus le choix. Hein ? C'est pas par plaisir. Et quand vous voyez des pays où les personnes âgées se retrouvent à faire des petits boulots hein, pour... voilà. Donc il faut, c'est extrêmement complexe hein, parce que ça touche à tas d'aspects. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas d'ailleurs si ça serait souhaitable. Est-ce qu'il serait souhaitable? Est-ce qu'il serait possible de travailler cette question des retraites en tenant compte vraiment des questions de pénibilité? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait avoir un système? Mais il y a des arguments contre aussi qui on va dire, voilà, ajuste en quelque sorte l'âge de la retraite en fonction d'un certain nombre de critères qui peuvent être justement liés à l'état de santé, à l'espérance de vie. Vous avez 10 ans aujourd'hui d'écart d'espérance de vie en France entre un ouvrier et un prof de fac. Voilà. Donc si le prof de fac part à la retraite à 75 ans, bah, pas l'ouvrier. Sinon, il y a un problème. Vous voyez, c'est pour ça que l'âge, là encore, si on prend un âge, On va faire beaucoup de dégâts. Hein, parce que cet âge de 75 ans, comme celui de 60 ou de 65, voilà, ça ne dit pas grand-chose sur la réalité, sur la diversité des situations. Hein. Il n'y a rien de plus différentiel. Enfin, si, il y a d'autres choses, mais le vieillissement, c'est vraiment quelque chose de différentiel. Il n'y a pas deux personnes qui vieillissent pareil, qui vieillissent au même rythme, qui vieillissent au même âge, qui se sentent... voilà, assez... C'est vraiment une très, très grande diversité.
Moi, le micro. Pour aller un peu compléter aussi ce qui vient de dire monsieur, tout à l'heure, vous avez fait une remarque sur la santé. À un moment donné, on évite, on prolonge la santé des gens, on évite les accidents du travail, on les empêche de fumer, de boire, les accidents de la route, etc., on va vers une élévation forcée de la vieillesse. Hein. On va vers la vieillesse tous. Et on soigne mieux les gens, etc. Et tout. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, de toute façon, le problème il va se poser de ce que vous posiez? On ne pourra plus, il y en aura de trop. Un problème économique de soigner les gens. Comment vous le voyez, quoi, je veux dire. À un moment donné, ça va se passer. Moi, je pense que déjà, les politiques, en politique de santé, ils y ont réfléchi. Parce que si on s'aperçoit que, un exemple pour les femmes, il y a une détermination d'âge, par exemple, de passer une mammographie qui est déjà réelle. On ne veut pas la passer avant un certain âge, alors qu'il y a de plus en plus de cancers qui se produisent vers l'âge de 35 ans actuellement. Et à partir d'un certain autre âge, on arrête de passer une mammographie. Je ne sais plus si c'est 70 ou 72.
74.
Ouais, voilà. Alors, vous voyez, le problème économique est déjà vu de ce genre-là. Je pense que ça, c'est des choix de société importants, parce qu'à ce moment-là, on dira... Bah, après, et ça se produit déjà dans la maison de retraite, puisqu'on ne souhaite plus les personnes à partir d'un certain moment... si elles ont un cancer à 75-76 ans, ben on arrête les soins. Donc c'est une euthanasie déguisée. Comment vous voyez l'évolution là ?
Alors, je la vois en, peut-être en nuançant l'un de vos propos. On ne peut pas dire, on ne peut pas présenter comme une généralité, comme une pratique générale, le fait qu'en France aujourd'hui, on ne soigne pas les vieilles personnes. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure, l'accès aux soins est de plus en plus difficile, en effet, au fur et à mesure de l'âge. Ça, c'est vrai. C'est vrai que des directeurs de maisons de retraite, par exemple, ou des médecins coordinateurs de maisons de retraite ou des gériatres vous diront qu'ils sont régulièrement obligés de mentir sur l'âge de tel ou tel patient pour le faire hospitaliser dans certains services spécialisés où voilà, on aime moins recevoir des gens passés un certain âge. C'est une réalité, en effet. C'est une réalité absolument insupportable. Hein. Mais c'est pas une... On ne peut pas dire que c'est, on peut pas présenter ça comme étant une généralité, comme étant quelque chose qui se passerait partout, tout le temps. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a un risque, là où je suis d'accord avec vous, c'est je pense qu'on risque d'aller vers ça. On risque d'aller, on le voit, ça existe dans d'autres pays. Hein, ça existe dans d'autres pays, donc c'est possible. En France, j'espère qu'aujourd'hui, ça ferait scandale si demain on apprenait qu'il n'y aura plus de prothèses de hanche passé tel âge. Voilà. Enfin, qu'il n'y en aura plus remboursé, prise en charge par la sécurité sociale. Peut-être je suis très optimiste. Je pense que ça, aujourd'hui en France, ça ferait scandale. Hein. Bon. Après, que ça existe sous des formes, je vous dis, officieuses, oui, comme tout un tas de choses existent sous des formes officieuses. Après, à nous de lutter officiellement hein, pour que, voilà, que ça ne devienne jamais, déjà que ça ne se répande pas trop officieusement et que ça ne devienne jamais des choses qui pourraient être souhaitées, pensées, faites de manière officielle. Hein. Mais après, quand vous dites qu'il y aura de plus en plus de vieux, attention, les questions de démographie, il faut les voir aussi sur le long terme. Hein. On va avoir un moment de l'histoire de notre pays pendant quelques décennies où, à cause du baby boom, il va y avoir en effet plus, à un moment, de plus de 60 ans que de, etc., ce dont on a parlé tout à l'heure. Ça correspond à un moment de l'histoire de notre pays. Hein. 20 ans après le baby boom, on a eu, hein, quand on regarde la démographie française, les naissances en France après le baby-boom jusqu'à aujourd'hui, on a des choses relativement, on a même une bonne natalité aujourd'hui, comme on dit. Voilà. Donc, on va à un peu plus long terme que ce moment qui va être délicat, parce que c'est vrai que le baby-boom a créé démographiquement quelque chose d'un peu particulier, mais à un peu plus long terme que le baby-boom, on va vers une France relativement, ce qu'on disait tout à l'heure, relativement équilibrée démographiquement. Hein, avec des gens d'un peu tous les âges. Voilà. Donc, on n'a pas quelque chose. La pyramide, elle change dans le sens qu'elle passe d'une forme pyramidale à une forme plus comme ça. Elle deviendra jamais. Elle n'est pas ça, la pyramide. Elle ne deviendra pas ça. Pour qu'elle devienne ça, il faudrait qu'il n'y ait plus du tout d'enfants, plus d'immigration. Plus, voilà. Ce n'est pas le cas. Hein. La France est même un des pays d'Europe où il y a le plus d'enfants. Hein, enfin, où il y a la natalité. Donc voilà, c'est des choses qu'il est important de rappeler. On va, si on met entre parenthèses cet aspect particulier lié au baby-boom, on va vers une France qui démographiquement sera relativement, voilà, il y aura des gens d'un peu tous les âges. Voilà.
La question quand même, c'était comment vous voyez la solution pour ça.
La solution.
Est-ce que vous avez des propositions à faire aux politiques? Parce que de tout temps, il y avait des tranches d'âge qui disparaissaient par les maladies, les épidémies, les guerres, ce qui ne se passe plus, heureusement. Mais comment voyez-vous l'avenir dans 20 ans ou 25 ans? Parce que vous n'avez plus de pyramide, vous n'avez une espèce d'obélix actuellement. Et effectivement, un jour, vous aurez peut-être plus de vieux que de jeunes. Heureusement, on a une démocratie à peu près équilibrée en France. On est à 1,9 par rapport aux pays d'Europe.
Plus.
Mais 1,9 à 2, hein. Oui. Hein, les années 2000. Ouais. Mais comment envisagez-vous une solution? Voilà. Est-ce que vous avez des propositions, par contre?
Alors, il y a une première solution radicale, c'est de faire un coup d'État pour me mettre à la tête du ministère de la Santé. Bon, il est possible que du côté de Xavier Bertrand, il y ait une opposition à ça, mais voilà, ça serait une première solution intéressante. Non, plus réalistement, parce que celle-là me paraît un peu irréaliste. Non, de solution, si vous voulez. Ce qui est important, en tout cas, je crois que ce qui est important, c'est d'essayer, et c'est en ça que ça dépasse complètement les questions, justement, d'âge ou de vieillesse ou d'âgisme, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à ces notions de choix. Voilà. Il se trouve que, moi je remarque par exemple qu'on peut facilement nous placer, ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on peut facilement nous placer dans un système où on va nous dire, comme le dit Hugues de Jouvenel, en gros le budget de la santé c'est tant, eh bien avec ce budget-là on n'a pas le choix, est-ce qu'il faut sacrifier les jeunes ou les vieux? Voilà. Les propositions, avant de les faire sur est-ce qu'il faut sacrifier les jeunes ou les vieux, il faut essayer de les faire sur est-ce que le fait que le budget de la santé soit celui-là alors que celui de la défense c'est celui-là alors que celui de ceci c'est celui-là, est-ce que ça, ça va? Le problème, c'est que ces choix-là, on nous les offre beaucoup moins. Publiquement. Ils sont beaucoup moins discutés, ils sont beaucoup moins... Voilà, je crois que ça fait partie. C'est si on veut éviter qu'on nous place un jour ou l'autre dans des choix par rapport à ce qui, pour certains, de manière idéologique... est considéré comme de l'argent qui sert mal. Pour certaines personnes, pour des raisons idéologiques, l'argent qui va à la santé, l'argent qui va à l'éducation, l'argent qui va à l'art, l'argent qui va à un certain nombre de choses, c'est de l'argent gâché. Voilà. Si on veut, par rapport à ça, lutter, c'est face à ça qu'il faut lutter. C'est pas dans le c'est aussi dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'art ou dans le domaine de l'éducation, mais c'est plus globalement pour que ces domaines-là ne soient pas, sans qu'on ait le choix, sacrifiés par rapport à d'autres choses. Hein? Voilà, donc je crois que c'est vraiment faut travailler en amont des questions. Après, c'est important de travailler aussi en aval. Hein? Dans le domaine de la santé, on l'évoquait tout à l'heure, il y aurait évidemment moyen de dépenser mieux l'argent que déjà on dépense. Bon, mais indépendamment de ça, voilà, il faut voir si à un moment... Si vous avez demain, alors, je sais pas moi, prenons, si vous regardez aujourd'hui les statisticiens, les gens qui s'amusent à faire des statistiques, nous disent par exemple que le risque, moi je lis, je peux le lire, que le risque de grippe aviaire, par exemple, est plus important que le risque de guerre nucléaire. Bon. Alors après, je regarde donc en France ce qui se passe s'il se passe une guerre nucléaire. Derrière chacun d'entre nous, il y a je ne sais pas combien de mégatonnes de bombes. Si je regarde le nombre de respirateurs artificiels qu'il existe en France dans les hôpitaux et qui sont nécessaires pour éviter qu'une épidémie de grippe aviaire fasse une hécatombe, il y en a à peine assez en temps normal, en dehors des épidémies. Voilà. C'est des questions, ça, de société. C'est des questions politiques globales. Ce n'est pas des questions liées à la santé ou liées à autre chose. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire, moi, j'ai mes préférences, j'ai mes convictions, etc. Mais à la limite, ça ne m'intéresse pas forcément de vous les balancer comme ça. Ce qui est important, je crois, indépendamment des convictions de chacun d'entre nous, c'est de ne pas se laisser prendre, enfermer dans les cadres ou dans les choix que les autres nous présentent comme étant des cadres obligés ou des choix obligés. Hein, c'est d'essayer de toujours prendre un peu cette espèce de petit recul en amont, quoi. Voilà. Parce que je pense que les combats ils sont là de manière vraiment très 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 fort, hein. Mais c'est des combats, surtout c'est des combats qu'on peut faire quotidiennement dans nos métiers, par la militance, par les activités associatives, par notre bulletin de vote, par ce qu'on fait ce soir. C'est ça, quoi, la une société. La politique, fondamentalement, c'est ça, ce qu'on est en train de faire là, quoi. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas Xavier Bertrand, là.
Ouais, moi, je voudrais simplement dire, quand vous dites on va avoir quelques décennies difficiles, justement, il faudrait peut-être commencer à mettre les moyens en place dès maintenant. Pas les mettre quand les décennies vont arriver, quoi. Et... voilà, oui, on y est. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de moyens. Il est clair, je suis infirmière coordinatrice d'un service de soins à domicile. Voilà, depuis 28 ans, je m'occupe des personnes âgées. Et je dis qu'aujourd'hui, on n'a pas de moyens. On nous saupoudre les moyens. On parle d'une politique pour personnes âgées, mais elle est fictive. Hein. On a des hôpitaux, on a des directeurs qui sont de vrais gestionnaires et qui se battent au quotidien avec un budget restreint. On ne prévoit ni de psychologues ni de diététiciennes dans nos maisons de retraite. On a des services de soins infirmiers à domicile. On donne des places au compte-gouttes. Hein. Cette année, le préfet en a donné 4 pour la Nièvre, sachant le nombre de personnes âgées dépendantes qu'on a maintenant. On a à domicile des personnes âgées de plus en plus dépendantes, de plus en plus âgées, et avec voilà, des aides à domicile non formées, non gérées, non encadrées. J'ai un exemple un petit peu concret. Nous avons monté un dossier pour créer un poste de coordinatrice des aides ménagères et coordonner les acteurs de terrain du canton de l'Orne. Parce que je pense que si on a une bonne coordination, on arrivera à avoir une bonne prise en charge globale des personnes âgées. Et donc ce poste, eh bien, qui peut le financer ? Personne. Donc on monte un dossier en emploi tremplin. Nous avons des demandes, on cherche quelqu'un, bac plus 2. Nous avons des candidatures, donc le dossier va à la région nous suit, 60%. Le dossier va au Conseil général de la Nièvre, on n'a pas d'argent. Le dossier va à la communauté de communes de l'Orme, on n'a pas d'argent. Alors que ces instances ont quand même la compétence personnes âgées. Donc moi je dis que non, c'est pas ça une politique pour personnes âgées. Quoi. Et aujourd'hui on a vraiment... Il y a vraiment à se battre, oui, auprès des politiques pour faire entendre tout ça. Voilà.
Oui. Non, mais je suis... Oui.
Oui, alors moi, je voudrais déplacer un tout petit peu le débat en recentrant les choses sur... ce que nous rapporte aussi cette population âgée en termes d'emploi. Par exemple, sur notre zone, on sait bien qu'il y a énormément d'emplois qui sont développés autour de l'accompagnement, autour de l'aide, autour du soin, même si ça manque. Je suis d'accord avec ma collègue, je rejoins complètement ce qu'elle dit. Je pense aussi à toute l'industrie pharmaceutique, pour qui les personnes âgées, je pense que c'est une manne financière énorme et dont on ne parle pas beaucoup. Je pense aussi à toutes les aides techniques, enfin toutes ces choses qui tournent autour des vieux. Hein. Et j'aimerais bien aussi que vous nous donniez un petit avis là-dessus.
C'est sûr que... On entend rarement l'industrie pharmaceutique se plaindre du vieillissement de la population. C'est voilà. Je pense qu'il y a plus de personnes âgées qui pourraient se plaindre de l'industrie pharmaceutique qu'il y a d'industriels pharmaceutiques qui devraient se plaindre des personnes âgées. On a des... Enfin bon, peu importe. On ne va pas parler de la surmédication ce soir, ce n'est pas le sujet. Non, je crois, là aussi, c'est peut-être deux petites remarques simplement. Oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, dans une vision là aussi, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que vous avez en effet, de même que vous avez un certain nombre de gens voilà, qui accusent un petit peu justement les personnes âgées de coûter cher, entre guillemets, vous avez en effet tout un tas de travaux d'un certain nombre de sociologues, d'économistes, etc., qui montrent en effet que l'argent qui va dans la santé, que l'argent qui va dans le prendre soin, enfin le domicile, que l'argent, etc., c'est pas de l'argent qu'on envoie comme ça en l'air. C'est de l'argent, en effet, qui correspond à des emplois, hein, qui correspond à un certain nombre de choses. C'est de l'argent qui circule dans l'économie, etc. Les gens qui ont étudié les flux monétaires aussi, hein, les fameux seniors aisés, ben, ce dont on s'aperçoit, c'est que ceux qui en ont de l'argent, ils l'utilisent beaucoup pour aider les membres de la famille qui en ont moins. Soit les beaucoup plus vieux, qui ont eu des retraites catastrophiques, etc., soit les beaucoup plus jeunes. Hein. Donc voilà, donc les énormes aujourd'hui sont en France, justement, les aides à l'intérieur des familles, et notamment financières, des plus vieux vers les plus jeunes. Donc ça fait partie, en effet, on pourrait... J'en parle pas tellement parce que j'ai envie de dire que fondamentalement, là aussi, même si un vieux rapportait rien, et alors quoi, au sens où un être humain, ça n'a pas à rapporter. Voilà. Voilà, non, je suis d'accord. C'est-à-dire que dans le cadre, on va dire, un peu économique, il faut équilibrer les discours négatifs en rappelant, ça c'est évident, tout ce que fait aussi, justement, tout ce que font, tout ce qu'apportent les personnes âgées, etc. Mais je crois que c'est important aussi de sortir à un moment de ce cadre économique en disant que même si les personnes âgées, ça rapportait rien du tout, ça serait toujours aussi précieux parce que c'est des êtres humains, quoi, point barre. Hein, voilà, c'est tout.
Oui, mais... Bon, moi, je trouve qu'on a dit beaucoup de choses négatives. Bon, des soins, des... mais je pense aussi que les personnes retraitées apportent aussi beaucoup de choses à tout le monde.
Tout à fait.
Voilà, autant aux autres qu'aux associations, et tant qu'elles peuvent le faire, jeunes dans leur cœur et dans leur tête. Voilà. Bon, et ça c'est vrai. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Vous savez, c'est toujours... déjà, c'est délicat, toujours, voilà, on ne peut pas parler de tout en peu de temps. Et puis, c'est toujours l'inconvénient. C'est vrai que c'est toujours... Quand on axe un petit peu, quand on parle surtout, justement, des clichés ou des stéréotypes, on a du coup plutôt tendance à parler de tous ces discours très critiques, très négatifs. On n'a pas forcément à chaque fois non plus le temps de rentrer en détail sur tout ce qui permet de modérer les choses. Mais vous avez entièrement raison sur les aspects, associatifs. C'est les associations loi de 1901 sont, je ne sais pas comment on pourrait dire, sont le squelette de la France, enfin où sont les vaisseaux de la France, hein, la sève de la France. Si vous enlevez demain les associations loi de 1901, le pays s'effondre, quoi. Et les associations loi de 1901 vivent en grande partie grâce justement au temps de personnes qui ne travaillent pas, qu'elle soit à la retraite ou qu'elle soit au chômage, ou qu'elle soit étudiante. Enfin bon, voilà, c'est important en effet.
Voilà.
C'est bien que vous l'ayez souligné, parce que j'avais oublié de le faire.
Beaucoup de choses ont été dites. Bien sûr qu'il faut soigner nos aînés, ça. Mais il y en a d'autres qui sont encore actifs et qui peuvent, même à 80 ans, garder un petit-fils. Ou...
Ah bah oui.
Exactement.
Et beaucoup d'ailleurs d'enfants dans un pays là aussi qui manque de crèches dans certains endroits, etc. etc. Voilà, beaucoup de jeunes adultes, on va dire, actifs, arrivent à s'en sortir parce que parce qu'il y a les parents ou les grands-parents qui font tout un tas de choses, bien entendu, bien entendu.
Oui, moi je vois qu'on s'inquiète de quand la population âgée sera plus importante. Je me dis qu'en fait ce sera peut-être pas un mal. Ça nous obligera à penser autrement. Parce qu'il me semble qu'actuellement, comme nous sommes dans une sorte de mythe de l'éternelle jeunesse, ce mythe-là est dangereux. Je pense que le rôle de la personne âgée, entre autres, elle a un rôle social important, c'est de nous rappeler qu'on est éphémère et de se questionner sur qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. Et c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter aujourd'hui, de penser au fait qu'on est éphémère, d'où les catastrophes écologiques qu'on génère. Voilà. Merci.
Je suis assez d'accord avec vous et je pense que si on était tous peut-être un peu plus lents, un peu plus rêveurs éventuellement, un peu plus à prendre du temps aussi parfois justement pour raconter des choses, pour réfléchir à des choses qu'on a racontées, on y gagnerait peut-être, ouais. Non, mais je crois aussi qu'il faut... Je pense qu'il est important... Tout à l'heure, j'évoquais un moment, là aussi, quand on parle du vieillissement en accent sur les facultés. Oui, à 80 ans, je courrai moins vite qu'aujourd'hui, et je cours moins vite aujourd'hui qu'à 15. Bon, enfin, qu'à 18 en tout cas. Mais j'espère bien que les bouquins que j'écrirai quand j'aurai 80 ans seront meilleurs que ceux que j'ai écrits à 30. Non, mais voilà, on a des facultés, on le sait. Voilà, un certain nombre de nos facultés s'affaiblissent en vieillissant. C'est comme ça. Comme on le sait, du coup, on peut quand même en tirer aussi des conclusions. C'est clair que si on passe si on passe ces années, on va dire, de jeunesse et de maturité à n'être obsédé, à centrer tout ce qu'on fait, toute notre identité sur précisément que des choses qui vont s'affaiblir, on risque de se préparer une vieillesse un peu triste. Voilà. Après, ce qui est, mais c'est là qu'il y a justement aussi un combat à mener de ce côté-là, c'est que tout un tas de choses qui sont soit en effet liées. En effet, quand on est vieux, on est plus lent que quand on est jeune. La lenteur a énormément d'avantages. Hein. Il y a des éloges de la lenteur qui ont été écrits par un certain nombre de personnes qui étaient loin d'être des imbéciles. Je pense à Pierre Sansot notamment, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, qui était un très beau sociologue. Enfin, n'hésitez pas à lire ses très beaux ouvrages, qui a écrit un éloge de la lenteur. Sur d'autres choses aussi, la capacité à créer, la capacité à rêver, la capacité à échanger avec les autres, la capacité à apprendre, la capacité à jouir, la capacité à faire de l'art ou à l'apprécier. Hein. Il y a tout un tas de capacités, non seulement qui ne s'affaiblissent pas en vieillissant, mais qu'on peut même augmenter, hein, ou dont on peut augmenter le champ, l'éventail au fur et à mesure de sa vie. Donc ça, voilà. Mais sauf qu'on est là aussi dans une société, c'est pas un hasard, on est dans une société où un rêveur, quand on dit c'est un rêveur, c'est presque une insulte. Voilà. C'est beau de rêver, c'est beau de rêvasser. Rêvasser, c'est péjoratif. C'est marrant ce verbe, rêvasser, c'est péjoratif. Moi, je trouve ça merveilleux de rêvasser. J'aimerais bien avoir plus le temps de rêvasser, justement. Voilà. Donc, non, mais on a beaucoup, on est. Et c'est sûr, si là aussi on est dans un modèle très activiste, hein, très centré sur un certain nombre de sur un certain nombre de choses liées aux activités, liées au physique, liées au voilà, on va passer à côté de tout un tas de choses. Et j'espère que, en effet, la vieillesse peut aussi nous servir de pour changer un petit peu ces choses-là.